On en avait parlé avec Marco mercredi d'un article qui allait être publié par lui sur RG Media concernant les négociations du contrat de Lane Hutson, et je suis très heureux de lui jaser aujourd'hui de tout ça. Salut Marco, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
En pleine forme, mon cher Marco, et j'avais hâte de lire ton article sur ce qui se tramait en coulisses concernant le contrat de Lane Hutson. Et je veux d'abord mettre quelque chose au clair avec toi. On parle d'un contrat qui avoisine combien d'années et sur quoi on va se baser également pour y aller d'une prolongation de contrat dans le cas de Lane Hutson?
Ouais, dans le cas de Lane, je sais que tout le monde parle de 8 ans automatiquement, mais premièrement, il a jusqu'au 16 septembre 2026 pour signer un contrat de 8 ans, donc il y a du temps. Après ça, la limite devient 7 années. Et le problème étant, tout le monde attend pour voir qu'est-ce qui se passe dans le marché. Donc, il y a certains, agents libres avec restrictions qui ont signé des contrats de 5 ou 6 ans. On a vu Matthew Nyes, 6 ans, Wyatt Johnston, 5 ans. Mais là, on attend de voir vraiment s'il va avoir un agent libre avec restrictions qui va s'aventurer vers le 8 ans qui est au top de la ligue. Je parle pas de, mettons, sans manquer de respect à un gars comme Jackson Blake en Caroline, mais tu veux quelqu'un qui va setter le marché. Le clan Hutton ou le Canadien de Montréal, je pense que sont confortables avec n'importe quelle année, donc ça peut être 5 ans comme ça peut être 8 ans. Tout dépend de l'argent qui va rentrer en contexte. Et il y a beaucoup de personnes que je vois en ligne qui se basent présentement sur des chiffres de joueurs qui ont signé alors que le cap salarial était stable et n'augmentait pas. Mais malheureusement, la donne va changer et a changé cette année et va continuer à changer alors que le cap salarial va monter de quasiment 9 % par année pour les 3 prochaines années.
Je veux que tu expliques un peu pour le bénéfice des auditeurs en quoi la prolongation de contrat de Lane Hutson sera différente de celle de Noah Dobson qui a été transigé au Canadien avec une nouvelle prolongation de contrat à 9,5 millions par saison. Un peu expliquer les différences entre les deux joueurs dans le cas de Lane Hutson, à quoi on peut peut-être un peu plus s'attendre pour un contrat à court terme.
Outre pour, dans le fond, toutes les équipes de la Ligue nationale, le marché, sauf peut-être les Leafs de Toronto sous Kyle Dubas, suivent un peu la même hiérarchie. Un joueur qui est dû à devenir un agent libre ou qui deviendra un agent libre en termes de statut durant le terme de son contrat, on appelle ça acheter des années
d'autonomie.
Des années d'autonomie. Donc, ça fait en sorte que, exemple, un joueur comme Noah Dobson, lui, il restait une année en tant qu'agent libre avec restriction. Puis après ça, les 7 autres années qui suivent dans son contrat de 8 ans, il aurait été libre comme de l'air. Donc, tu payes plus cher pour des années comme ça parce que tu es en train de payer dans le temps où ce que le joueur aurait d'autres options. Donc, ces années-là valent plus, même si le joueur n'est pas nécessairement meilleur qu'un autre. Donc, je sais qu'on peut argumenter qui est le meilleur défenseur entre Noah Dobson et Lane Hutson. Je pense que la grande majorité des partisans vont regarder le potentiel à Lane Hutson et dire peut-être que ça va être lui. Mais en termes de toute l'historique et en termes de où ce qu'il est dans leur carrière, les années signées de 8 ans de Noah Dobson valent plus en général qu'un joueur comme Lane Hutson qui, lui, a 21 ans et qui reste 5 années avant qu'il pourrait, à l'échéance de son contrat, donc l'année prochaine, donc 6 ans à partir du 1er juillet de cette année, avant qu'il puisse devenir agent libre sans restriction. Donc, ça fait en sorte que sa valeur de contrat, quand tu regardes Noah Dobson, j'ai vu du monde dire « Si Noah Dobson a gagné 9,5 millions, c'est certain que Lane Hutson va en gagner plus. » Pas nécessairement, parce que, encore une fois, Lane Hutson n'a pas le même niveau, le gros bout du bâton que Noah Dobson avait cet été. Et c'est ça qui change la donne, parce que Noah Dobson pouvait passer en arbitrage, pouvait être éligible pour un offre hostile. Ces choses-là ne sont pas possibles l'été prochain pour un gars comme Lane Hutson. Donc, ça change beaucoup la discussion et ça fait en sorte que le Canadien se doit d'être plus créatif pour trouver un juste milieu, que ce soit côté salarial ou côté année de contrat.
Très intéressant. Dans le cas de Lane Hutson, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les négociations entre le Canadien et son clan? Est-ce que tout se fait Est-ce que la relation est bonne en ce moment? Parce que évidemment, il était éligible à signer un nouveau contrat dès le 1er juillet, mais du côté des deux parties, en ce moment, on s'entend bien, là.
Oui, vraiment le mot d'ordre que j'aimerais que les partisans sachent en ce moment, selon ce que je me suis fait dire de ceux qui sont proches de la situation, pas de stress. Absolument pas de stress. Ça se parle au quotidien, très amicable, pas vraiment de problème en termes de pas vraiment de gros écarts en termes de salaire. C'est juste une question de trouver la bonne balance, le bon fit. Qu'est-ce qui serait mieux? Et ce qu'on voit en ce moment, c'est, et je parle pas juste de Lane Hutton, c'est tous les agents de la Ligue nationale, c'est ces fameux joueurs qui finissent leur contrat d'entrée et par le passé, ça signait des 8 ans, comme on a vu avec Nick Suzuki, Cole Caulfield, Juraj Slafkovský. Ça, c'était dans une ère où on savait que le cap salarial était plat et on n'avait pas encore une idée de où est-ce que ça s'en allait. Mais là, pour la première fois dans l'histoire de la Ligue nationale, non seulement est-ce que tu sais où est-ce que le cap salarial s'en va l'année prochaine, mais tu as les 3 prochaines années de déjà indiquées par la Ligue nationale en termes de projection. Donc, les agents utilisent ça pour se dire, ben si je signe si mon client signe, exemple, 9 millions sur 8 ans, et dans 4 ans, les salaires de la Ligue nationale en moyenne ont monté de 25%. Un joueur de deuxième paire va gagner 9 millions de dollars alors que mon Lane Hutson, lui, étant un des, disons, on se dit là, dans 3 ans, un des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, puis il gagne 9 millions. Il va se virer de bord et dire « Pourquoi j'ai signé ça? » Puis c'est exactement ce genre de feeling-là que le Canadien et l'agence veulent essayer d'éviter parce que c'est là que ça commence à causer des problèmes. C'est là où que tu commences à regarder d'autres négociations et n'oubliez pas, le Canadien va être dans le même bateau l'été prochain avec Ivan Demidov. Et donc, c'est là où ce que tu vois la relation entre les deux clans étant hyper importante. Tant si longtemps que ces deux clans-là se disent « on va trouver une solution », il suffit juste de voir où ce que le marché se situe. Mais c'est ça qu'on entend en ce moment. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les partisans du Canadien de Montréal.
Ouais, quand tu regardes, pour le bénéfice des auditeurs, là, concernant la masse salariale dans la Ligue nationale, parce qu'on dit à quel point elle augmente, puis c'est incroyable quand on regarde ça dans les 3 prochaines années, Marco. 2025-2026, c'est la prochaine saison. La masse salariale sera 95,5. 2026-2027, 104 millions. Et en 2027-2028, 113,5. Alors, c'est normal que du côté des clans de joueurs, des agents, on soit patient, on fasse attention également, puis qu'on puisse se baser sur des nouveaux styles de contrat, des nouvelles ententes pour finalement décider c'est quoi le meilleur pour nos clients.
Ouais, mais c'est ça. Donc, puis j'ai même des agents qui croient que la Ligue nationale pourrait même dépasser ces projections-là parce qu'ils l'ont dépassé leurs projections l'année passée.
Okay.
On va voir qu'est-ce que ça donne cette année, mais ça s'englobe très bien. On sait pas qu'est-ce qui va se passer côté expansion. Ça va rentrer dans le décor aussi. Et maintenant qu'on commence à parler des joueurs de la trempe de Lane Hutson ou Ivan Demidov, l'idée c'est, mais si ça va augmenter quasiment 9% par année, ben, vaut-tu mieux signer un contrat à court terme, genre 4 ou 5 ans, et ensuite y aller pour le 8 ans plus tard où est-ce que tu pourrais demander vraiment la lune, parce que tu vas être éligible pour arbitrage, tu vas être éligible pour des offres hostiles, tu vas être très proche de ton autonomie, ça englobe beaucoup de choses, donc il y a beaucoup plus d'opportunités pour que le joueur aille chercher 2 gros contrats à place de juste un. Parce que si Lane Hutson signe en ce moment, aujourd'hui, c'est 8 ans à partir de l'année prochaine, donc il va avoir 22, 23, disons, ouais. Donc jusqu'à 31 ans. Après ça, quand il signe à 31 ans, il a fait son prime, c'est fini. C'est là où ce que tu commences d'habitude à avoir une petite pente descendante, sauf les défenseurs vraiment élites. Donc, est-ce que c'est mieux pour lui de signer, exemple, 5 fois 8 maintenant? Et ensuite, aller, mettons, 8 fois 15 dans 5 ans, un agent dirait oui. Mais l'autre affaire qu'il faut prendre en considération, puis ça, je veux être clair là-dessus, Lane Hutson veut absolument rester à Montréal. C'est même pas un débat. Il est en amour avec cette ville. Il est en amour avec vous, les partisans. C'est même pas une question. C'est juste une question de trouver une entente qui va être confortable pour le joueur et qui va pas faire en sorte que le joueur va se sentir un peu, je ne veux pas dire arnaqué, mais s'est fait pogné par l'organisation dans les négociations. Donc, c'est juste un juste milieu. Mais encore une fois, comme je dis, conversation continuelle et on surveille de près certaines négociations d'agents libres avec restrictions, dont Mason McTavish et spécifiquement Luke Hughes au New Jersey.
Donc, tu t'attends à ce que ça déboule rapidement après la signature de Luke Hughes avec les Devils?
Rapidement, mais ça va leur donner de quoi se baser. Et c'est ça qui est important, parce que quand tu commences dans une nouvelle ère, on a vu ça, le mec, la Ligue a commencé avec à dire le cap va être, mettons, stagne pendant 3 ans, mais on a vu ce genre de projection-là dire, OK, ça va rester comme tel. Les joueurs qui ont signé 8 ans se sont basés sur les contrats qui ont été signés l'année d'avant et les 4 prochaines années ont fait la même chose. Là, tu rentres dans une nouvelle ère, ils veulent juste voir qu'est-ce que ça donne, puis là, les discussions vont devenir un peu plus sérieuses. Mais l'affaire que je pourrais dire, c'est que les deux clans aimeraient que ça soit résolu le plus vite possible, ouais. Toujours. Mais c'est ça. Il n'y a pas de jeu qui se joue. C'est ça que je me fais dire. Il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est pas une question de on va attendre pour voir si on peut gagner plus de salaire. C'est vraiment juste le marché au complet est en attente pour voir qu'est-ce qui est la norme.
Je comprends. Et dans la nouvelle convention collective, à moi je me trompe, Marco, concernant la durée des contrats, on a aussi une année de moins là, concernant les ententes à long terme.
C'est ça. Puis ça, c'est pas à partir du 1er juillet. C'est à partir du 16 septembre 2026.
Parfait.
Donc, même si Lane Hudson se rend au 1er juillet 2026, ce que je doute fortement, il est quand même éligible de signer son fameux contrat de 8 ans jusqu'au début du camp d'entraînement, quasiment l'année d'après. Et la même chose pour Ivan Demidov, qui lui est seulement éligible pour signer une prolongation. Oui, on parle déjà d'une prolongation pour Ivan Demidov à partir du 1er juillet 2026. Donc, je crois personnellement que le Canadien aimerait que le contrat de Lane Hudson soit signé vraiment en avance pour ne pas devoir vraiment négocier avec ses deux plus grosses jeunes étoiles en même temps.
Puis là, regarde, là, je sais que je vais de prédiction, mais habituellement, Kent Hughes ne nous a pas habitués à signer des contrats à long terme ou à signer ses jeunes espoirs, à attendre à la dernière minute avant de le faire. Je sais que du côté des Devils, en ce moment, Luke Hughes, c'est ça qui se passe, mais j'ai comme pas l'impression qu'on va se rendre jusqu'à la fin de la saison avant de le signer. J'ai plus l'impression qu'on attend, puis que ça va se faire durant la saison régulière.
Même avant. C'est juste une question de voir qu'est-ce que les autres vont signer. Parce que tu as certains joueurs que j'ai nommés qui doivent signer des contrats pour jouer cette saison, McTavish, Luke Hughes, mais attention, il y a d'autres joueurs dans le même bateau que Lane Hudson, dont Connor Bedard, dont Adam Fantilli, dont Will Smith, qui sont des joueurs que toute la Ligue surveille. Leo Carlson, même chose. Ouais. Toute la Ligue surveille ces joueurs-là parce que c'est eux qui vont vraiment setter la nouvelle hiérarchie salariale pour des joueurs qui sortent de leur contrat d'entrée. Et je dois vous dire, Luke Hughes est un peu dans le même bateau, mais lui doit absolument signer avant le début de la saison pour jouer cette saison. Donc, c'est vraiment ça qui a surveillé. Mais quand tu regardes vraiment le cheminement de tout ça, ça fait en sorte que la Ligue est juste en pause pour des contrats. Tout le monde attend, mais ça se parle. Et c'est ça qui est le plus important. Quand il n'y a pas de négociation, quand il n'y a pas d'échange d'informations, c'est là où que tu te poses des questions. Mais je veux absolument préciser ça pour les partisans. Il n'y a aucun souci quand un contrat va être signé. C'est juste une question de 8 ans ou 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. C'est juste pour voir ça. Ce que je dirais, c'est que la seule et unique fois qu'on a vraiment vu ça avec le Canadien de Montréal, c'était Cole Caulfield.
Ouais.
Puis Cole Caulfield a fini par signer 8 ans. Donc, il n'y a pas de stress. Le mot d'ordre en ce moment, c'est que la culture du Canadien de Montréal a fait son chemin, a été très bien bâtie et tout le monde a buy-in, comme on dit en anglais. Donc, les Suzuki, les Caulfield, là, tu as Ivan Demidov qui a goûté à ça cette année. La même chose se passe avec Lane Hudson, qui lui, encore une fois, veut absolument regoûter aux séries à Montréal. Il a tellement aimé ça cette année.
Alors, en terminant sur le contrat de Lane Hudson, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec la nouvelle convention collective, avec l'augmentation du plafond salarial, les ententes qu'on a fait avec Brock Faber et Jake Sanderson au cours des dernières années ne deviennent plus nécessairement des balises sur lesquelles se fier en vue d'un prochain contrat, parce que la masse augmente tellement au courant des 3 prochaines années que, oui, tu peux te fier un peu là-dessus, mais le vrai contrat auquel va falloir se fier, c'est celui de Luke Hughes, c'est celui qu'il va signer éventuellement avec les Devils du New Jersey.
Je dirais parce que les autres ont signé des contrats de 8 ans.
Ouais.
Donc, si on décide de peut-être, comme exemple, on a vu avec Caden Gooley a signé 6 ans, lui,
Exact.
Son contrat. Donc, ça se peut aussi de signer 6 ans. Tu achètes quand même une ou deux années d'autonomie. Je pense, dans le cas de Lane Hudson, une année d'autonomie. Puis après ça, tu en reparles rendu là. Mais je crois que dans 6 ans, le Canadien va être au moment, selon moi, avec les projections, va être au moment où est-ce qu'ils vont vraiment compétitionner pour une coupe. Est-ce que tu veux que ce joueur-là va rentrer en négociation en même temps que, exemple, un Nick Suzuki, que lui, son contrat risque de venir en échéance, ou un Cole Caulfield, lui aussi, son contrat, dans ce temps-là, risque de venir en échéance. Est-ce que tu prends ce risque-là? Moi, si je suis le DG du Canadien de Montréal, j'ai pas de stress là-dessus,
Ouais.
parce que si le cap continue à monter comme ça l'est, le problème, c'est que les grosses équipes vont être capables de garder leurs joueurs parce qu'ils n'auront pas de cap interne. C'est les petites équipes qui vont en souffrir. Donc, si je suis Canadien de Montréal, ça ne me dérange pas tant et aussi longtemps que le joueur est content.
Kent Hughes a déclaré au site LNH.com que dans le cas de Kirby Dach, on est très patient et pour le début de la saison, on n'est pas nécessairement convaincu. On veut vraiment être certain qu'il est à 100% pour revenir et on va être très patient dans le cas de Kirby Dach. Qu'est-ce que ça te dit, toi, Marco, en vue du début de la saison? Est-ce que tu t'attends à ce qu'il y ait d'autres mouvements de personnel chez le Canadien ou tu penses qu'on va peut-être un peu plus opter pour le statu quo?
Tout dépend de qu'est-ce qui va être disponible. En ce moment, le Canadien est au statu quo jusqu'à temps que tu arrives au 1er
Exact.
Septembre et tu deals avec le contrat de Carey Price, parce que tu peux pas faire un ajout de taille en ce moment, parce que le Canadien est déjà au-dessus du cap salarial. Il est à 6 millions au-dessus du cap salarial présentement. Et tu peux juste dépasser de 10% sans utiliser le LTIR de la saison morte. Et le Canadien de Montréal ne veut absolument pas faire ceci. Ils veulent transiger le contrat. Donc, il y a une certaine pause parce que ils peuvent juste ajouter 3 millions en salaire. Et l'autre mot d'ordre, c'est que le Canadien ne veulent pas soustraire un joueur de leur alignement afin de pouvoir ajouter un morceau comme centre. Le problème aussi étant, la moitié de la Ligue se cherche un centre. Et donc, ça fait en sorte qu'il n'y a rien qui bouge en ce moment. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais je sais que le Canadien regarde. Et je sais que le Canadien doit en premier temps bouger un contrat, et
ouais.
Ça sera vraisemblablement celui du contrat de Price. Et une fois ceci fait, vont avoir la liberté ensuite, je pense d'à peu près 3 ou 4 millions, de pouvoir aller se chercher un joueur qui pourrait jouer au centre si nécessaire. Mais encore une fois cette transaction-là sera faite, ils auront peut-être une meilleure idée de où se trouve un gars comme Kirby Dach dans son rehab. Et c'est vraiment là le crux du problème. Mais là, le Canadien aussi peuvent se dire, mais si Kirby Dach n'est pas prêt, Alex Newhook peut retourner au centre, comme on a vu
Exact.
L'année passée. Zach Bolduc, on verra qu'est-ce que ça donne, mais je doute qu'ils vont l'utiliser au centre, selon ce que je me suis fait dire. Donc, on verra rendu là. Et aussi, on a vu Ivan Demidov jouer certains matchs durant cet été avec Jake Evans. Ce serait pas hors de norme pour débuter la saison. Je ne dis pas que ça va se passer. S'il vous plaît, ne clippez pas ça. Mais ce que j'aimerais juste vous dire, que le Canadien ne va pas nécessairement surpayer
Exact.
Si Kirby Dach n'est pas prêt au lever du rideau puis ça y prend 2 ou 3 semaines. C'est pas la fin du monde. Le Canadien se sont débrouillés sans lui en fin de saison et ont fait les séries. Donc, de 2 ou 3 semaines, pas nécessairement la fin du monde. Ils peuvent se débrouiller à l'interne. Mon seul problème, puis ce que je trouve malheureux, c'est pour un joueur comme Kirby Dach qui cette saison est une année de contrat et vraiment une année hyper importante pour sa carrière, de manquer le camp d'entraînement, possiblement, ça serait un gros obstacle pour moi pour qu'il puisse commencer la saison de force, parce que déjà manquer un camp d'entraînement pour un joueur, tu manques beaucoup de tout ce qui est la remise en forme, les contacts, le timing et tout ça. Et c'est très difficile de rentrer et réintégrer dans une équipe en mi-saison, spécialement quand tu as déjà manqué quasiment la deuxième moitié de la saison auparavant et toute la saison avant celle-ci. Donc, c'est ça qui change la donne pour moi un peu, puis c'est un peu malheureux. Mais encore une fois, le club ne dit pas que Dach ne sera pas
non.
prêt. Il se dit juste que ça se peut que ça aille vraiment autour des matchs préparatoires ou la première ou deuxième semaine de la saison. Donc, à ne pas confondre un et l'autre, mais c'est, en vérité, ça tombe directement dans les informations dont parlait Max Schumann
Exact.
Dans les coulisses. C'est que Il n'est pas à 100% encore et c'est totalement comprenable. Il y a eu une chirurgie, si je me trompe, il y a 5 mois. Donc,
Ouais, fin
ça
février.
rentre dans le. C'est ça, fin février, donc 6 mois. Donc, ça rentre dans le délai d'une telle chirurgie et c'est totalement normal qu'il n'est pas encore là. Moi, j'étais surpris quand j'ai vu qu'il serait prêt pour le début de la saison, personnellement. Mais encore une fois, cette chirurgie a été faite in-house avec le Canadien de Montréal à la place de leurs envoyés ailleurs. Et donc, c'est pour ça que le Canadien, ils sont capables peut-être de suivre ça de plus près et parler avec un peu plus de confiance qu'on a vu auparavant. Donc, juste, c'est comprenable que les partisans aient un peu de panique dans cette situation-là, mais le vrai test, c'est de voir si c'est le CH qui va paniquer et aller se chercher un centre ou s'ils croient vraiment qu'ils peuvent trouver une solution temporaire à l'interne jusqu'à temps que Doc soit prêt.
Marco, Preston vient de marquer pour le Canada. C'est 3-3 en fin de troisième
Pourquoi?
période. Le Canada qui tirait de l'arrière 3-1 contre les Américains à demi-finale de la Coupe Linka-Gretzky. Le Canada qui vient de créer l'égalité dans ce match-là. On va surveiller ça de près pour vous. Juste mentionner, tu as parlé également de Kirby Doc. Puis rappelle-toi au bilan de saison du Canadien l'an dernier, Kent Hughes qui a parlé d'un camp d'entraînement qui n'avait pas été très facile pour Kirby Doc, là, de rater le camp d'entraînement qui s'en vient parce qu'il n'est pas prêt à revenir au jeu. C'est ça qui est plutôt problématique dans le cas de Kirby Doc. Mais je vais quand même, pour le bénéfice des auditeurs, je vais dire ce qui a été mentionné, là, c'est Kent Hughes a dit « Nous espérons qu'il soit prêt à temps pour le début de la saison. » On n'a pas écarté, mais il a dit « Nous espérons qu'il soit prêt à temps pour le début de la saison à un certain moment cet automne. Nous n'avons pas l'intention de précipiter son retour. Nous avons besoin de Kirby lorsque Kirby sera prêt physiquement à revenir et allons être très prudents quand il sera en mesure d'effectuer un retour au jeu. » Alors, on n'écarte pas à 100% le scénario qu'il ne soit pas là, mais en même temps, on s'entend pour dire que c'est pas de bon augure dans le cas de Kirby Doc.
C'est la même rhétorique qui est sortie quand le Canadien ont fait la remise en forme de David Reinbacher. Et il y a une raison pour ça. C'est le même chirurgien, c'est la même situation et c'est le même processus de remise en forme. Donc, le Canadien préfère rentrer avec un peu plus de précaution dans cette situation-là, à place de dire oui, il va être prêt, oui, il va être là. Parce que trop précipiter le retour d'un joueur, c'est comme ça que tu t'assures qu'il se reblesse. Et on a vu ça par le passé où ce que plusieurs en voulaient aux Canadiens de Montréal d'avoir précipité le retour de certains joueurs pour des raisons compétitives ou quoi que ce soit, qui auraient peut-être dû montrer plus de patience. Donc, c'est là où ce que je trouve que le Canadien a changé un peu d'avis là-dessus et démontré plus de précaution et de patience. Et je pense que c'est de bon augure parce que, selon ce que je me dis, le Canadien était très content de la chirurgie. Donc, tant si longtemps que Kirby Doc peut se remettre en forme, qu'il commence la saison ou qu'il joue la deuxième semaine, je ne pense pas que ça changera grand-chose pour le CH. C'est juste pour lui. C'est une année très importante pour lui de prendre son envolée et ça va être un autre obstacle de plus devant lui s'il n'est pas capable de commencer la saison à temps.
Ouais, je rappelle que Kirby Doc tombe agent libre avec restriction à la fin de la prochaine saison. Marco D'Amico, merci pour ton temps cette semaine. On te retrouve la semaine prochaine, mercredi et vendredi. Encore une fois, tu seras avec nous à compter de 15h. Merci pour le temps, puis on se reprend la semaine prochaine.
C'est moi qui te remercie. Je souhaite tout le monde une très belle fin de semaine.
Merci beaucoup. Marco D'Amico d'RG Media qui était avec nous pour revenir sur son article concernant l'éventuel contrat de Lane Hutson. On a discuté également de la situation Kirby Doc avec le Canadien.